de 1300 habitations précaires. Midi 10 à Paris, fin de ce journal dans un instant.
Merci beaucoup RFI pour ce journal. Vous écoutez La Clé des Ondes et c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on se pose un peu, on prend le temps de réflexion en compagnie d'une autrice, Elsa Deck-Marceau, et autour de son livre Faire Justice. Elsa Deck-Marceau s'interroge sur la gestion des conflits et nous interroge également, en particulier les violences sexistes et sexuelles au sein des milieux militants. On entendra la conférence qu'elle avait donnée en décembre dernier à l'Athénée Libertaire de Bordeaux. Et puis à partir de 13h, ce sera l'émission Histoire de voir, histoire au pluriel. Et aujourd'hui au programme, une conférence d'André Rosweg au sujet du livre Antisionisme, une histoire juive. On commence avec quelques informations. D'abord, le chantier des LGV, les lignes à grande vitesse du Sud-Ouest, Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, a commencé en ce début d'année avec des expropriations, des destructions de maisons et défrichages. Les collectifs d'opposants entendent réagir avec une nouvelle mobilisation ce samedi. L'événement s'appelle la Grande Vadrouille et il est appelé par Bordeaux se soulève, Destraya, LGV Nina, Attaque 33, Stop LGV 47, Alt LGV Bordeaux Sud et Extinction Rébellion Bordeaux. Pour y participer, le rendez-vous c'est à 14h à la gare de Cadojac. Au programme, des prises de parole de collectifs, des concerts, fanfares et cantines. Pour en savoir plus et pour comprendre également les vrais enjeux des LGV du Sud-Ouest, une réunion publique aura lieu ce soir, ce mardi soir à l'Athénée Libertaire à partir de 18h30. On vous en parlait la semaine dernière, 17 personnes ont été arrêtées le 8 avril dernier dans le cadre d'une enquête sur une action qui avait été menée contre l'entreprise Lafargue à côté de Rouen en 2023. Coup de bélier à 6h du matin, porte défoncée, reporter raconte la manière dont se sont déroulées ces arrestations et notamment les multiples erreurs de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, qui se trompe plusieurs fois de porte avant de trouver les bonnes personnes recherchées. Les témoignages recueillis par reporters montrent également la violence de ces interpellations. Fusil d'assaut pointés sur les visages, coups de pied et de poing avec des gants coqués. Les 17 interpellés sont ensuite conduits au sous-sol des locaux de la sous-direction antiterroriste en région parisienne, mis dans des cellules éclairées au néon sous vidéosurveillance avant de subir des heures d'interrogatoire. À leur sortie, 9 des 17 interpellés, 9 seulement sur les 17, ont reçu une convocation au tribunal correctionnel d'Évreux pour le 27 juin prochain. Voilà, c'est à lire sur le site reporter.net. Et puis samedi dernier, il a fait chaud, on a pris pour certains des coups de soleil. Et bien Météo France a annoncé qu'un record de température avait été établi, 17,9 degrés en moyenne sur la France, ce qui n'était jamais arrivé avant un 15 avril. Des records locaux de température à 28 ou 32 degrés ont aussi été enregistrés. Et heureusement, les températures ont baissé depuis et devraient continuer à rester stables et à des normales de saison pour quelques jours. Allez, on s'intéresse maintenant aux événements culturels du coin avec Jennifer du collectif Bordeaux Nord. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de La Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. La 33e édition de l'itinéraire des photographes voyageurs se poursuit jusqu'au 28 avril dans plusieurs lieux de la ville de Bordeaux, dont la galerie Arrêt sur Image et la Maison Bourbon sur le quartier Chartron Nord. La bibliothèque de Bordeaux-Lac propose diverses animations, un atelier trésor et vieux grimoires, mardi 16 avril à 11h, et un atelier tricot, samedi 20 avril à 13h. La Maison du Jardinier, quant à lui, au Parc Rivière, organise cette semaine des ateliers et animations, dont un atelier pinceaux végétaux, mardi 16 avril à 14h, un atelier origami, jeudi 18 avril à 14h, et une lecture poétique sifflée, jeudi 18 avril à 16h. Le Garage Moderne ouvre sa guinguette pour la saison à partir du 17 avril, du mercredi au vendredi, de 16h à 20h30. Rendez-vous ce mercredi 17 avril avec le DJ Mariage, membre du collectif Hill Music Only. Les Vivres de l'Art exposent le travail de la plasticienne Sylvanie Tendron du 18 au 30 avril, vernissage ce mercredi 17 avril à partir de 18h. Blond Vénus organise une projection du film de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, ce mercredi 17 avril à 20h. La salle des fêtes du Grand Parc reconduit son festival jeune public, Bobine de fil, du 18 au 21 avril, au programme spectacles et ateliers pour tous les âges. L'association Les Petits Tréteaux propose aux habitants deux rendez-vous gratuits, un hebdomadaire et un autre mensuel, au centre social du Grand Parc. Le premier rendez-vous est tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 pour des ateliers de théâtre, dont ce jeudi 18 avril. Le deuxième rendez-vous est ce samedi 20 et dimanche 21 avril à partir de 10h30 pour des ateliers de théâtre et de danse. L'annexe B, au Grand Parc, accueille l'exposition artistique nommée Utérus. Il s'agit d'une œuvre collaborative de Sophia Rivas et Amina Abdallah. À découvrir jusqu'au 28 avril, vernissage ce samedi 20 avril à partir de 18h. L'association Bordeaux Patrimoine Mondial vous invite à une balade urbaine sur le quartier de Bacalan ce dimanche 21 avril à partir de 14h30. Blond Vénus organise son rendez-vous mensuel du dancing du dimanche après-midi. Rendez-vous dimanche 21 avril à partir de 15h. Et pour finir, l'association Au Grand Parc SDF s'associe à la salle des fêtes du Grand Parc pour la projection mensuelle d'un film. Ce dimanche 21 avril à 15h, il s'agira du film d'animation Le Tableau de Jean-François Laguioni. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Et merci beaucoup Jennifer pour cet agenda encore une fois bien chargé. Midi 16 sur la clé des ondes et c'est le plat de résistance. Alors cette semaine, on va parler beaucoup de conflits, de violences sexistes et sexuelles et de la gestion de ces conflits et violences. Demain, on recevra dans le plat de résistance des étudiantes qui prennent part à la mobilisation actuelle du côté de l'Université Bordeaux-Montaigne pour une meilleure gestion de ces violences par l'université. Aujourd'hui, on prend davantage de recul et on s'intéresse au travail d'Elsa Deck-Marceau, qui est militante, qui est autrice avant tout, qui a publié ce livre « Faire justice », sous-titré « Moralisme, progressisme et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes ». Elle s'intéresse justement à la gestion de ces conflits au sein des milieux militants. Elle était l'invitée le 15 décembre dernier de la librairie du Muguet à l'Athénée Libertaire et on va entendre de larges extraits de cette intervention, de cette rencontre enregistrée et montée par Rémi Filton. On écoute ça tout de suite sur la clé des ondes.
Ce livre, c'est le produit de 4 années de travail au sein d'un collectif que j'ai cofondé, donc FRACA, qui est un collectif d'entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences dans les milieux militants. Et en fait, il s'avère à la fin qu'on n'a pas accompagné que des militants, mais on pourra en reparler un peu plus loin. Mais en tout cas, le livre, c'est vraiment venu dans l'envie de partager tous les constats qu'on avait faits et de pouvoir sensibiliser aussi sur tout ce qu'on faisait entre nous, aussi bien des choses très belles et des initiatives merveilleuses, mais aussi ce qu'on pouvait faire de pire. Et ce livre, j'ai eu l'occasion de l'écrire parce qu'on m'a contactée pour me proposer de l'écrire. Et du coup, c'est là d'où est venue l'envie et l'idée de mettre à l'écrit tout ça. Et effectivement, ça n'a pas été simple parce que je crois que pendant vraiment plusieurs mois de l'écriture, j'ai été complètement parasitée par toutes les voix qui étaient dans ma tête, notamment les voix de la communauté, de la pureté militante, mais aussi les voix de mon éditrice, mes voix à moi. Enfin, voilà. Et finalement, j'ai réussi à m'en débarrasser tout en ayant quand même un peu peur de la récupération politique autour du bouquin, qui est quand même une tentative d'autocritique de ce qui peut se faire dans ces milieux militants. Et qui dit autocritique publique dit potentielle récupération, notamment des gens qui critiquent les milieux dont je parle, quoi, les milieux progressistes, les milieux de gauche et d'extrême gauche. Donc il y avait quand même une légère peur d'une récupération à la fois politique des réacs, quoi, et puis à la fois d'une récupération politique de personnes qui voudraient peut-être laver leurs mains de choses qui leur auraient été reprochées et qui voudraient se servir un peu des outils ou des notions dont je parle pour avoir le nouveau lexique militant à la mode et pouvoir un peu se faufiler parmi les accusations. Donc c'était voilà, un peu les deux grandes figures de méchants loups auxquelles j'ai dû faire face, mais je me suis dit que ça valait le coup de sortir quand même un livre, parce que au-delà de la peur des réacs, je pense que ce qu'on se fait entre nous nous ralentit déjà énormément et nous inflige beaucoup de blessures dont il faut pouvoir faire la critique et dont il faut pouvoir s'adresser pour qu'on puisse justement aller plus loin et qu'on puisse produire des luttes qui soient plus fortes et plus justes aussi en interne. Quoi. Je me demandais aussi quels ont pu être les problèmes que vous avez rencontrés pendant la mise en place de cette justice transformatrice. Quels éléments peuvent bloquer la mise en place de cette pratique ?
Donc le collectif FRACA, duquel je parle beaucoup dans le livre, c'est un collectif qui est un collectif qui souhaite accompagner des gens, des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire appel à la police pour prendre en charge leur violence ou leur conflit. Nous, on porte des principes abolitionnistes, c'est-à-dire qui visent à abolir le système pénal carcéral, qui visent à abolir la police et qui pensent qu'on ne peut pas arriver à un monde juste et égalitaire pour tous et toutes si on continue de régler nos conflits et nos faits de violence par ces outils-là, par ces institutions-là. Donc c'est l'idée que nous, on s'est monté au début en se disant il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas passer par la police ou ne veulent pas passer par la police, qui se retrouvent face à des situations hyper compliquées de violence, de conflits, de désaccords, etc. Et qui se retrouvent très seuls face à ça parce qu'il n'existe rien une fois qu'on a refusé de passer par ces institutions-là ou qu'on ne peut pas passer par ces institutions-là. Donc on s'est dit, on va se monter, on va essayer d'accompagner ces gens-là à travers les conflits dans leur collectif, à travers des violences physiques qu'ils avaient vécues et face auxquelles ils ne savaient pas quoi faire, enfin face à tout un tas de situations, avec l'idée que personne n'était jetable. C'est-à-dire que nous, on allait essayer d'aider chaque personne, malgré la diversité et la complexité de leur situation, même si ça ne rentrait pas dans des petites cases de « Ah bah telle chose, on va le traiter comme ça, telle chose, on va le traiter comme ça ». On a vraiment essayé d'inventer un système D, quoi. Parce qu'en fait, quand on s'est monté, on avait quand même la volonté de se former à ce qui existait déjà, mais il n'existait pas grand-chose. Donc il y avait la recherche de ce qu'on pouvait mettre en place, et on en est venu effectivement à la justice transformatrice, dont on va parler un peu plus longuement, mais en tout cas, c'était vraiment une justice de terrain, quoi. En fait, tous les jours, vous faites justice. Tous les jours, nous, enfin, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous fait justice déjà dans ces écoles, dans ces collectifs, dans tous les espaces que vous traversez. C'est juste qu'on n'en est pas conscient parce qu'on pense que la justice, c'est l'apanage des institutions, c'est l'apanage de la police, etc. Donc maintenant qu'on prend conscience de ça, qu'on fait tous et toutes justice, comment on cultive ça, comment on s'en empare et comment on attrape des outils qui nous permettent de le faire bien, quoi. Quand même, on a joué un peu au petit chimiste dans le sens où on s'est monté avec du coup trois orientations principales au sein de ce collectif. Donc ce collectif, c'est un collectif, je l'ai pas dit, mais on était trois au début. Aujourd'hui, on est six. On a doublé nos effectifs, mais on reste pas beaucoup. On était des personnes queer et féministes. Donc on se place vraiment dans cette orientation-là. On a des principes féministes très forts et c'est de ce corpus-là, de ces réflexions-là qu'on vient. Et on avait trois orientations, donc accompagner les personnes ou les collectifs en situation de violence, de conflit, etc., qui ne savaient pas quoi faire, donc de l'accompagnement. On avait le fait de se former et de s'auto-former aux dispositifs déjà existants, parce que dans nos milieux, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on réinvente l'eau chaude, mais quand même, il y a des choses qui ont été faites avant, donc c'était bien de se former. Dans les dispositifs de soins, dans les dispositifs de droit, dans tout un tas de dispositifs d'éducation populaire, etc., etc., et essayer de les mélanger pour en faire des dispositifs qui puissent être adaptés et adaptables à nos situations et nos contextes. La dernière orientation qu'on s'était donnée, c'était la sensibilisation et le fait de pouvoir transmettre ce qu'on avait fait. Donc le livre vient dans cette troisième orientation, par exemple. Et donc oui, on a effectivement rencontré pas mal de problèmes, notamment... Je pense qu'au début, on a porté une position, une posture qui était assez incompréhensible, notamment de la part des féministes, un truc qui était beaucoup moins binaire que juste... il y avait les victimes d'un côté, les bourreaux de l'autre, etc. Et on va revenir sur tout ça, mais en tout cas, nous, on a essayé de remettre de la complexité dans la manière de lire les violences. Et ça, typiquement, ça n'a pas été très apprécié au début. Et je pense que la différence entre la manière dont le livre là est reçu et la manière dont notre travail a été perçu au début, il y a quelques années, elle est flagrante. Enfin, vraiment, vous voyez, vous êtes aussi nombreux que ça. C'est impressionnant. Donc ça montre qu'il y a vraiment un sujet, qu'il faut qu'on s'en empare, etc. Mais il y a 4 ans, il y a des gens qui nous ont dit qu'on était antiféministes, qu'on les faisait vomir, etc. Enfin, c'était vraiment... Et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre. C'est juste, je pense qu'il y a quand même une évolution globale de nos collectifs, de nos milieux. Et je pense qu'il y a aussi une évolution qui doit se faire dans le temps. Donc, il y a 3 mouvements dans le livre. Le premier mouvement dans le livre, c'est la critique du contexte militant dans lequel on se trouve et comment ça se fait qu'effectivement, dans des milieux qui critiquent la police et qui critiquent les institutions punitives, on se retrouve nous-mêmes à mettre en place des outils punitifs tels que l'exclusion, l'isolement, l'humiliation publique, le harcèlement, la dénonciation sur les réseaux sociaux, etc. Comment ça se fait qu'on se retrouve à faire ça ? Alors même que c'est des outils qu'on critique chez nos ennemis politiques. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et ensuite, effectivement, dans la deuxième grande partie, je parle des pratiques punitives et de qu'est-ce que j'entends par pratiques punitives et comment ces pratiques-là se passent dans nos milieux. Parce que, en fait, je pense que très peu de gens sont au courant, en fait, de la gravité, du niveau de gravité jusqu'auquel ça peut aller dans ces situations-là. Je donne deux cas de figure. C'est fictionnel, c'est-à-dire que j'ai utilisé plusieurs éléments de plusieurs histoires parce que faut respecter la confidentialité, mais en tout cas, il y a deux histoires différentes, deux cas de figure pour justement venir expliquer parfois qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qui est absurde de mettre en place parce qu'en termes d'objectifs, ça atteint pas du tout les objectifs qu'on recherche à la base. Et là, en l'occurrence, c'est une femme qui milite dans les milieux féministes depuis très longtemps, quoi. Et qui milite contre les violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, il y a un moment où elle subit une agression, enfin une violence sexuelle de la part d'un ami à elle, au sein d'une soirée. Et elle décide, après en avoir beaucoup parlé avec les gens autour d'elle, après avoir beaucoup réfléchi, elle décide d'établir une discussion avec cette personne. Et après cette discussion, où elle estime que c'était assez satisfaisant, elle décide de rester en contact avec lui. Et je raconte cette histoire où, finalement, cette femme-là, des mois après, reçoit un mail qui la call-out. Call-out, c'est une dénonciation nominative publique pour un fait, un agissement que la personne aurait commis. Donc là, par exemple, elle est dénoncée sur les listes mail de sa ville comme étant une personne qui soutient les violeurs. Et donc elle, au début, ne comprend pas du tout d'où ça peut venir, etc. Parce qu'elle milite, encore une fois, depuis des années contre les violences sexistes et sexuelles. Et le mail n'est pas signé, il ne fait pas mention de faits concrets, donc elle ne sait pas à quoi se raccrocher, elle ne comprend pas à quoi ça fait référence. Donc elle commence à chercher et à essayer de contacter des gens et tout, puis finalement elle comprend que ça fait référence à cette première histoire dont elle-même est la victime. Et face à cette histoire, c'est elle qui a fait ce choix-là, quoi. Elle a fait ce choix conscient de rester en contact avec ce gars parce que, après vraiment avoir pris du temps, elle a estimé que c'était ça qui lui faisait plus de bien que de couper les ponts avec ce mec, par exemple. Et pourtant, elle se retrouve donc call-outée sur ces listes mail-là, et elle finit par être très isolée socialement, parce que tout le monde finit par lui tourner le dos, vu que personne ne sait exactement de quoi il s'agit, personne ne sait même que c'est cette histoire dont il s'agit, et elle se retrouve mise au banc de ses communautés militantes, de lieux de sa ville, etc. Donc elle se retrouve hyper isolée. Et cerise sur les gâteaux, elle se retrouve très isolée. Elle se retrouve aussi à porter son ami qui finit par être lui-même très isolé. Et du coup, elle se retrouve avec toute la charge mentale de porter ce gars qui, en fait, va mal aussi du fait de l'isolement. Donc bref, je raconte cette histoire et j'en raconte d'autres. Enfin, je donne beaucoup d'exemples au fil du livre. Mais en tout cas, c'était vraiment ensuite pour pouvoir le décortiquer, pour pouvoir analyser aussi tous les enjeux qu'il y a autour de ces histoires qui, en fait, se retrouvent... Je l'ai rencontré plusieurs fois, quoi, que le groupe se retourne envers la victime, typiquement. Donc voilà pourquoi je donne cet exemple. Ce que j'aime penser aussi, c'est que le problème, c'est pas l'exclusion. Le problème, c'est pas le call-out. Le problème, c'est pas la dénonciation, etc. Le problème, c'est comment on le fait. Exclure une personne, ça peut être légitime dans plusieurs types de situations, notamment si on parle d'une personne qui est multirécidiviste, face à qui d'autres choses ont déjà été tentées, ont déjà été mises en place, et que cette personne n'entend pas ce qui lui est reproché, et elle, par exemple, est dans le déni. Et bah, typiquement, l'exclusion, ça peut permettre de protéger le groupe, ça peut permettre de protéger la communauté qui est autour. Et donc là, par exemple, l'exclusion, exclure une personne, pour moi, ça doit toujours se faire avec un cadre temporel, c'est-à-dire une durée limitée dans le temps, au bout de laquelle on va refaire le point avec cette personne, voir où elle en est, si elle s'est transformée, si elle a évolué, etc. Ça doit se faire aussi avec un cadre géographique. Elle ne peut pas être exclue de tous les lieux de sa ville, par exemple, parce que sinon, c'est invivable. Enfin bon, il y a quand même quelques petits trucs à mettre en place pour que ce soit bien fait. Et puis, il faut aussi lui expliquer pourquoi elle est exclue, qu'est-ce qui lui est reproché, etc. Mais en soi, l'exclusion, c'est pas quelque chose... Enfin, ça peut être quelque chose qui est pertinent et utilisable. Et donc, ce qui est important, c'est juste de dire qu'on peut pas systématiser nos réponses aux faits de violence. C'est juste qu'on doit écouter les gens. On doit écouter ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin aussi pour aller mieux, pour comprendre ce qui leur arrive, pour comprendre ce qui leur est reproché, etc. Et partir de là pour créer des choses sur mesure, quoi.
Pour en revenir à la justice transformatrice, est-ce que tu as du recul sur l'efficacité de cette pratique ?
Donc, la justice transformatrice, j'ai l'habitude de la définir en l'opposant un peu avec deux autres types de justice. Donc, la justice punitive, qui est la justice dans laquelle on baigne tous et toutes, qui est la justice qui repose sur l'idée que punir une personne pour un acte répréhensible ou un acte désigné comme répréhensible est juste et nécessaire. Il y a un autre type de justice qui en France commence à être un peu connu grâce au film « Je verrai toujours au visage », donc la justice restaurative. Donc la justice restaurative, c'est une justice qui vise à revenir à un état d'apaisement antérieur. Il s'agit de réparer le lien ou de réparer la situation pour revenir à un état d'apaisement antérieur. Donc c'est plutôt un mouvement de revenir à un état un peu plus apaisé et antérieur. Là où la justice transformatrice, pour le coup, va venir voir le fait de violence ou le conflit comme le moment où on va justement pouvoir venir travailler le contexte dans lequel a émergé ce fait de violence ou ce conflit. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais si quelqu'un vole une pomme dans la rue sur une étale, la justice transformatrice va moins essayer de punir cette personne pour le vol de pomme que de comprendre pourquoi cette personne a dû voler une pomme. Est-ce que c'est quoi le contexte socio-économique de la personne ? C'est quoi le contexte de vie de la personne, le contexte familial, etc. Et comment on va pouvoir venir comprendre et travailler sur ce contexte pour faire en sorte que le fait ne se repasse pas dans le futur ? Donc c'est une justice qui vise à la fois accompagner bien sûr les protagonistes de l'histoire, quoi. Enfin, si on parle d'une violence sexuelle, l'auteur et la victime, ou si on parle d'un conflit, les divers protagonistes. Mais c'est aussi une justice qui va venir travailler avec le groupe, avec la communauté, la collectivité, la société, plus dans son ensemble, pour comprendre comment cette violence a pu arriver. Et donc c'est une justice qui vraiment se positionne comme vraiment un acte d'engagement politique, quoi, pour changer les rapports de domination, pour changer les rapports de pouvoir qui traversent notre société et faire en sorte que ça puisse changer à un niveau structurel et systémique notamment, mais en profitant des violences aussi interpersonnelles qui se déroulent. La justice transformatrice, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu en France. Absolument pas. Il y en a sûrement qui connaissent parmi vous, mais c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Ça vient d'arriver dans le sens où ça a été créé aux États-Unis. Enfin, c'est un terme qui a été créé aux États-Unis dans les années 1990. Ça, c'est en train d'arriver en France vers 2015, un truc comme ça. Mais c'est une justice qui est encore assez peu connue. Et aux États-Unis, elle a été portée à l'origine par des communautés plutôt racisées, queer, anti-validistes ou handicapées. Enfin, par des communautés en fait, qui n'avaient pas le choix de passer par la police pour régler leurs propres problèmes. Donc c'est vraiment des gens qui se sont trouvés face à leur situation en se disant... Si on appelle la police, on va être encore plus dans la merde que si on n'appelle pas la police. Donc il faut absolument qu'on trouve des manières de répondre à nos actes qui ne passent pas par la police. Et donc c'est intéressant parce que c'est une justice qui est profondément abolitionniste. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reposer sur la police. Et en plus, c'est une justice qui vise à être une force critique de la police et des institutions pénales carcérales. En tout cas, en France, la justice restaurative, c'est une justice qui repose sur les appareils de justice pour se développer. Elle repose sur le ministère de la Justice, elle repose sur le dépôt de plainte, etc. Enfin, c'est une justice qui est entremêlée avec l'institution pénale carcérale. Là où la justice transformatrice ne vise pas du tout à se mêler à ces institutions-là et vise vraiment à rester une justice de terrain, de quartier, une justice militante et profondément contestatrice, quoi. Et donc, pour répondre à ta question de « est-ce que ça marche ?» Bon, déjà, je ne sais pas si on fait de la justice transformatrice. Bon, après vous avoir dit tout ça, voilà. Mais je ne sais même pas si on fait justice à Fraca. Donc, mon livre s'appelle « Faire justice », mais c'est un gros mensonge. Je pense que nous, on accompagne des gens à partir de là où ils en sont pour juste les amener un tout petit peu plus loin et permettre à des gens de se déplacer un tout petit peu par rapport à leur situation, que ce soit des groupes ou des personnes. Et qu'on vient vraiment les accompagner avec des outils qui sont féministes, évidemment, avec des outils qui sont politiques. Mais je crois qu'on ne vient pas faire justice. Après, je ne vais pas me lancer dans un débat de c'est quoi faire justice, mais c'est quoi la justice. Mais en tout cas, je pense qu'on ne se positionne pas exactement là. Et du coup, la justice transformatrice, nous, c'est un outil sur lequel on se repose beaucoup parce qu'on va systématiquement, quand on en a l'occasion, travailler à la fois avec les personnes directement concernées, mais aussi avec les gens qui sont autour. Parce que ça nous permet des leviers incroyables et ça nous permet aussi de sensibiliser les gens sur le fait que les faits de violence, les conflits, c'est genre notre affaire à tous et à toutes, quoi, et qu'il faut qu'on se mette les mains dedans. Mais du coup, oui, ça marche dans le sens où je crois qu'après 4 ans, si je continue, c'est que j'estime que je vais quelque part, quoi.
J'ai une dernière question. Du coup, je ne sais pas si elle a vraiment de réponse, mais dans le livre, tu parles du fait que la gestion légale du conflit et de la violence, c'est un marché très lucratif, que l'État a réussi à imposer comme une évidence jusqu'à nous faire croire qu'on est incapable de gérer nos propres conflits sans passer par son intermédiaire. Du coup, dans ces conditions, comment faire pour généraliser la justice abolitionniste ?
Alors, je ne sais pas si on peut la généraliser, justement. En fait, je pense que déjà, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire se dire qu'on est capable de gérer les choses Et nous, par exemple, avec Fracas, du coup, donc comment ça se déroule? Les gens nous écrivent un mail et nous disent on a un problème, on a un conflit, on a besoin d'aide. Et nous, on leur propose un premier appel de 2 heures. Pendant ce premier appel, on va étudier la situation avec les personnes, on va l'analyser ensemble, et puis après, on va voir si on met en place quelque chose à la suite ou si on s'arrête là. Et souvent, en fait, on s'arrête là parce que les gens, ils ont déjà besoin d'être écoutés, et c'est un peu la clé de voûte de notre travail. Mais surtout, nous, le principal, ça va être d'autonomiser les gens sur leur propre situation et de leur faire prendre conscience que nous, on n'est pas. Enfin, nous, effectivement, ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on commence à avoir un peu des idées de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Mais chacun et chacune rencontre plein de conflits dans sa vie et rencontre plein de violences dans sa vie. Et du coup, vous avez vous-même déjà développé des choses et mis en place des choses. Donc nous, ça va être vraiment la volonté qu'on a pour l'autre, c'est de les rendre très autonomes par rapport à leur propre histoire et nous venir plutôt en sous-main. Et du coup, je pense que c'est ça la première pierre avant de penser à une nationalisation et comment on va pouvoir systématiser ça à l'échelle du pays. C'est vraiment de se dire que déjà, on est tous concernés par ces histoires et que si on y réagissait tous de manière systématique, ces violences-là, ces conflits-là, etc., ne pourraient pas, surtout les violences, ça ne pourrait pas se passer, quoi. Et donc, on va commencer par là avant de commencer à parler de comment on va faire pour rendre ça en service public, quoi. Mais à terme, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais bon, on n'est pas du tout là.
Je t'ai entendu dans un podcast des couilles sur la table où tu disais que ça serait bien qu'on apprenne tous à être formés à la gestion de conflits. Et j'aimerais savoir si tu as des outils à donner à ça.
Alors, le livre, c'est une sorte de grosse intro, en gros, à tout ce qu'on peut... Enfin, pas tout, mais certains sujets qu'on peut aborder quand on parle de ça. Et effectivement, c'est un livre qui va pas très loin là-dedans. Et moi-même, je voudrais pas donner une boîte à outils. Et c'est pas du tout une boîte à outils, le livre. Par contre, il y a énormément de références à la fin. Et de références super sur, si vous voulez, vous former sur la question. Et surtout, aller lire des choses pour aussi vous faire votre propre idée. Du coup, pour se former, en fait, pour se former à la gestion de conflits, en fait, c'est juste que le conflit, ça touche à tellement de choses. Est-ce qu'on parle de se former à l'accueil des paroles des victimes? Est-ce qu'on parle de se former au trauma, au traumatisme? Parce qu'en fait, c'est une énorme part de notre travail. Est-ce que c'est se former à comment faire de la médiation et faire se parler les gens? Ou est-ce que c'est se former à prendre des conflits collectifs en charge? C'est pas du tout la même chose. Du coup, ça dépend vraiment de toi, ce qui t'intéresse comme porte d'entrée. Et je pense honnêtement avoir mis assez de références pour que tu puisses... y rentrer par une porte ou l'autre en fonction de ce qui t'intéresse.
Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te positionnes sur justement cette notion d'être fonctionnel en tant que collectif et de gérer le rapport à la justice, mais qui permet de se remettre en chemin?
Ouais. Bah, effectivement, quand je dis il faut que tout le monde apprenne à prendre en charge les conflits, les violences, etc., ça omet un point important que tu soulèves, c'est-à-dire que souvent on n'est pas déjà un outillé pour le faire, et de deux, on n'a pas le temps, surtout quand on parle de collectifs militants qui sont en train de mener genre 10 luttes à la fois, etc., et que en fait il faudrait déjà se former, qu'après il faudrait mettre quelque chose en place, et qu'en fait mettre des trucs en place, ça demande un suivi quand même assez long dans le temps. Donc c'est quand même assez idéaliste ce que je propose. Et donc, souvent, quand on organise des soirées, quand on a un lieu, j'imagine que tout le monde a vécu ça, si vous êtes un peu une figure pas publique, mais que vous portez des événements publics ou que vous portez un lieu, une institution, etc., les gens viennent vous voir pour vous apporter des situations qui, en plus, ne vous concernent pas exactement. Et là, typiquement, par exemple, je pense à une situation où j'organisais une soirée et dans la journée, il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant « J'ai été violentée par X personnes sans me donner aucun détail ». Cette personne est censée venir ce soir, moi aussi j'ai envie de venir ce soir, donc moi je voudrais que cette personne ne vienne pas et soit exclue de ta soirée. Et voilà. Et donc elle me donne ça. Et donc moi je suis censée prendre une décision à la minute par rapport à cette situation où je connais aucune des deux personnes, je connais à rien la situation. Et en fait, de prendre en charge cette situation de manière juste, ça mettrait complètement en arrêt la préparation de la soirée, ou surtout si c'est le jour même, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Là, en l'occurrence... Bon, je me rappelle plus de ce que j'ai fait en l'occurrence, mais en tout cas, nous, ce qu'on peut conseiller aux collectifs qui nous contactent en nous disant « Là, on m'a demandé de prendre position sur tel sujet en urgence extrême et il faut absolument que je fasse quelque chose que j'estime juste, mais en même temps, il faut que je réagisse à la situation. » Nous, on dit que, en fait, faire justice, prendre une position juste et prendre en charge une situation de violence, ça s'apprend. Et en fait, c'est pas quand on est en train de faire complètement autre chose, si on veut absolument réagir dans l'urgence, ça va pas être fait de la bonne manière. Et du coup, pour moi, c'est pas tant le fait d'apprendre nous-mêmes à faire les choses que aussi d'apprendre à réagir systématiquement et aussi à relayer et à passer le relais quand on se sent pas de le faire. Et pour moi, ça, c'est un aspect principal qui est que on va forcément vous demander d'agir dans l'urgence et de mettre des choses en place dans l'urgence, surtout pour montrer que vous êtes des bons soutiens, des bons alliés à la situation et que vous n'allez pas laisser tomber le truc. Donc on vous demande de réagir dans l'urgence, mais en même temps, si vous n'êtes pas outillé pour le faire, vous n'allez pas mettre les bonnes choses en place. Donc l'idée, ce serait de dire, soit on dit, genre, on va réagir, on va produire par exemple un texte pour prendre position, etc., mais ça va nous demander du temps. Et ce n'est pas qu'on ne réagit pas, c'est juste qu'on a besoin de temps pour se faire une idée de la situation et une idée qui soit juste d'après nous, selon nos valeurs, etc. Mais en parallèle, vous pouvez très bien relayer vers d'autres personnes et d'autres professionnels qui vont prendre en charge ça mieux que nous. Et typiquement, à Fracas, il y a plein de situations dans lesquelles on ne peut pas réagir, en fait. Parce que, déjà, si la situation vient de se passer ou si on est un an après, on ne va pas du tout mettre les mêmes choses en place. Et si la personne, par exemple, elle est en détresse psychologique parce qu'elle vient de vivre la situation de violence, nous, on ne pourra pas réagir parce qu'on n'est pas des professionnels de soins. Donc, on a établi toute une liste de personnes relais, de professionnels de soins, de professionnels de droit, d'associations d'aide aux victimes, d'associations d'accompagnement des auteurs de violence, enfin, plein de personnes vers qui on peut relayer quand nous, on n'est pas outillés pour faire les choses. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est pas de se dire que toi-même tu dois réagir et mettre des choses en place qui soient justes à l'instant T où on te le demande, c'est plutôt de manière systématique réagir et faire en sorte que les gens soient relayés vers des personnes qui pourront les prendre en charge de manière juste si toi tu peux pas le faire.
Est-ce que cette justice transformative, vous l'avez eu en tant que collectif à traiter notamment sur des cas qui touchaient pas forcément les milieux féministes et queer?
Donc non, on n'a pas eu à traiter que des histoires dans les milieux féministes et queer. De fait, on s'est fondé en pensant à ces personnes-là, mais très rapidement, on a été emporté vers d'autres rivages bien plus larges, comme on a accompagné des écoles, des médias, des assos politiques, des habitats partagés, des assos de cirque, des vignerons, enfin bref. Vraiment rien à voir avec les milieux queer et féministes, notamment parce qu'il y a, je pense, une envie de traiter les conflits et les violences d'une autre manière, mais qui est très partagée, très largement partagée. Et c'est pour ça que je me suis permis de parler des milieux progressistes dans leur acceptation large, c'est-à-dire qu'on a accompagné des gens, en gros, de gauche et d'extrême gauche. Ce qui va rejoindre un autre point de ta question, qui est que pour nous, enfin pour moi en tout cas, la justice transformatrice, c'est une justice qui est intracommunautaire. C'est-à-dire qu'elle peut agir qu'au sein d'une communauté, d'un groupe de personnes qui ont quand même des valeurs communes. Et sans valeurs communes, effectivement, c'est l'une des impasses de ces dispositifs-là et de cette philosophie-là, c'est que si vous voulez faire justice, il faut que au moins les personnes à qui vous voulez le faire soient un peu d'accord sur des principes de base du style. Que tout le monde devrait avoir droit tout le monde devrait avoir accès à des droits fondamentaux, par exemple, ou tout le monde, ou que violer, c'est pas bien. Enfin, voilà, que des trucs de base comme ça. Ou s'il n'y a pas de ça, s'il n'y a pas de valeurs communes, on ne peut pas agir, on ne peut rien mettre en place. Ou s'il n'y a pas de communauté, on ne peut rien mettre en place non plus. Par exemple, si on parle de violence conjugale dans un couple hétérosexuel et qu'il n'y a pas de collectif autour, qu'il n'y a plus de famille, qu'ils sont isolés et qu'il se passe ces violences-là. Bah nous, on aurait effectivement du mal à mettre quoi que ce soit en place. Ne serait-ce parce que effectivement, ça vaudrait le coup de réveiller les voisins, de réveiller les gens qui sont autour, mais ça demande un grand travail. Mais aussi, si les violences sont en cours, en fait, pour nous, il faut faire appel à la police, quoi. Enfin, y a un moment aussi, on est avec ce principe de réalité-là, où on est dans une société aujourd'hui où l'idée de communauté a été très attaquée depuis des années et des années, et du coup, l'idée de collectif en France n'a pas bonne presse, quoi, l'idée de communauté non plus. Et de fait, il faut d'abord qu'on commence à la nourrir, à la revigorer, quoi, pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus. Donc effectivement, quand on parle de personnes sans communauté, par exemple, si les deux personnes dont tu parles là se connaissent pas, là, ça serait compliqué de mettre des choses en place de notre côté. Mais après, on n'a pas pour désir d'investir absolument toutes les situations et d'arriver dans toutes les situations, quoi. Et pour la question de justice sur le temps long, tu choisis la socialiste qui est genre l'outil le plus court qu'on utilise, donc c'est marrant. La socialiste, c'est un dispositif d'intervention, je vous la fais très courte, mais qui est expliqué à la fin du livre en annexe. C'est un dispositif d'intervention sur 5 jours où 3 personnes, donc 3 socialistes, vont intervenir au sein d'un collectif en crise. Et on va essayer de décortiquer avec le collectif qu'est-ce qui se passe sur 5 jours, quoi, en gros. Donc c'est un dispositif qui est quand même assez efficace, parce que c'est que 5 jours, là où effectivement la justice transformatrice, c'est une justice sur le temps long. C'est-à-dire que nous, on va accompagner des gens, et parfois on accompagne des gens sur des années, quoi. Enfin, alors on n'est pas psy, donc on ne fait pas plusieurs appels par semaine, par exemple, ou plusieurs appels par mois, ça c'est pas du tout ce qu'on peut faire. Par contre, il y a des gens qui arrêtent de nous répondre au bout d'un mois, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie de se mêler à l'histoire qu'ils nous ont apportée. Et puis en fait, ils vont revenir 4 mois après ou 6 mois après en nous disant, en fait, si, j'ai besoin d'aide. Et puis ils vont redisparaître. Enfin, en fait, on se retrouve face à des personnes qui sont aussi en souffrance, qui sont en galère par rapport à leurs propres histoires. Et ça veut dire s'adapter à leur rythme. Parce que nous, on ne va pas leur dire, attends, tu ne nous as pas répondu, ça fait une semaine qu'on t'a envoyé un mail. Ça ne se passe pas comme ça. Donc nous, on est sur les starting blocks, et il y a beaucoup de gens qu'on suit de front, mais aussi des gens qui nous écrivent tous les 1 an, quoi. Enfin, voilà. Donc effectivement, c'est une justice qui est moins efficace, on va dire, que la justice punitive, où voilà, il y a un système qui est mis en place et qui systématise les réponses. Où là, où nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc, ouais.
Dans plusieurs endroits, tu dis qu'il y a plusieurs types de violences, plusieurs... que tu veux pas le définir, enfin voilà, mais qu'il y a plusieurs types. Et justement, je me demandais, dans les réponses, est-ce qu'il y a une grosse différence, j'ai pas encore lu le livre, entre des conflits interpersonnel ou de violence, enfin, sexuelle ou autre, peu importe, et des conflits politiques. Si la réponse, parce que est-ce que la justice transformatrice peut répondre à tout, enfin, ou à, je sais pas si tu vois la différence entre des conflits, des violences, etc., et des conflits qui sont politiques, des gens qui pourraient être exclus avec des call-out ou des trucs comme ça, mais pour des raisons politiques, parce qu'il y a un conflit.
Alors. La justice transformatrice, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on peut accompagner des gens qui sont dans différents types de conflits, c'est sûr, et on ne va pas utiliser les mêmes choses. Mais nous, on ne va pas venir étiqueter et catégoriser le conflit. En fait, tu as des gens qui nous appellent et qui nous disent « là, je suis en conflit », et souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont en... Enfin, c'est quoi le cœur du conflit, et s'ils nous appellent, c'est que ce n'est pas si évident. Et en fait, si tu avais juste un... on peut faire des échelles, graduer un peu les différents types de conflits. Alors effectivement, je le fais pas du tout dans le livre et je me refuse à le faire pour des raisons très valables. On peut différencier par exemple le conflit du désaccord politique. Là, dans ce que tu me dis, en fait, si c'est un désaccord politique, pourquoi tu as besoin d'une tierce personne pour intervenir et pour pouvoir t'aider? Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre le conflit ou le désaccord politique? Est-ce que le conflit, c'est pas un truc un peu plus complexe qui touchera à des trucs qui sont pas exactement politiques? Enfin voilà, je pense que dans nos milieux aussi, on a souvent tendance à dire oui, ça c'est un conflit politique et ça c'est un conflit interpersonnel, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire de différence exacte entre tout ça, parce que ça se mélange et qu'on est des êtres humains et que par ailleurs, tu as un conflit politique avec cette personne avec qui tu as couché il y a 3 ans et puis en fait, tu t'en es jamais remis. Enfin, voilà, donc nous, on est là aussi pour décortiquer tout ça et on ne va pas venir en disant ça c'est un conflit politique, ça c'est un conflit interpersonnel, ça c'est un conflit truc.
Vu que, comme tu le disais, pour le moment, ça reste, enfin, je ne sais pas si pour le moment du coup, mais ça reste dans des milieux de communauté avec un certain socle minimal de valeurs en commun. C'est quoi les perspectives pour un potentiel établissement à l'échelle structurelle de la justice réparatrice, enfin transformatrice, enfin surtout si on vise à l'abolition du système pénal carcéral, quoi.
Pour moi, l'abolition du système pénal carcéral, c'est un objectif, un horizon commun, sauf qu'en attendant la révolution, faut déjà que, pour moi, l'abolition, c'est tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour faire ça? Et je pense que c'est aussi une sérialité et une accumulation de petites actions qui vont nous faire croire au fait qu'on peut s'en passer. Et peut-être qu'à terme, on arrivera à s'en passer parce qu'on aura déjà cru qu'on pouvait s'en passer. Et du coup... J'ai pas de plan sur 10 ans sur comment on va réussir à faire en sorte que la justice transformatrice triomphe ou que la justice abolitionniste triomphe. Pour le coup, moi, je vois déjà des évolutions dans le sens où déjà, on parle vachement plus de comment on gère ces trucs entre nous. Enfin, le fait que vous soyez aussi nombreux, c'est une preuve. Et peut-être qu'à force d'en parler, ça va donner des choses. Mais moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Le fait est que déjà, depuis 4 ans, moi, j'accumule de plus en plus de noms de gens qui font ça, de gens qui s'intéressent à ça, aussi d'acteurs institutionnels avec qui on peut travailler. Alors que moi, il y a 4 ans, je pensais que je pourrais travailler avec aucune institution, etc., parce que j'étais beaucoup trop radicale pour faire ça. Aujourd'hui, en fait, je renvoie des gens systématiquement vers des institutions parce que je sais que ces gens-là font bien leur travail. Et du coup, c'est la question de quel maillage on va pouvoir créer, quel maillage associatif, quelle connexion on va pouvoir faire entre nos micro-milieux avec des un peu plus grandes associations et avec des institutions pour pouvoir faire ce travail de manière plus ou moins OK, quoi. Et du coup, c'est déjà là, c'est déjà sur le territoire et c'est déjà grand. Mais après, c'est pas en fait, pour moi, la justice transformatrice, et ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas trop une question de justice. C'est une question de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour arriver à un monde qui soit plus juste et égalitaire. Donc, c'est des associations d'accès au logement, c'est des associations d'accès à l'éducation, à la nourriture, au papier, etc. Et c'est tout ça qui va permettre qu'on puisse faire justice dans le sens où il y aura de moins en moins de violence, etc. Donc, c'est peut-être un monde idéalisé, mais c'est déjà des assos qui existent et qu'il faut nourrir, en fait. Donc, ce n'est pas tant une question de justice, de comment, en fait, on apprend à donner accès à des droits à tout le monde. Enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est déjà présent, ça. C'est déjà présent et c'est pas... Enfin, moi, j'ai rien inventé en faisant ce collectif. Oui, j'ai un peu voilà, mais j'ai pas d'ambition. Enfin, si, j'aimerais bien qu'il y ait une révolution, mais c'est pas moi qui vais porter ce truc-là. Et je pense, par contre, qu'il y a des acteurs, là, au quotidien, qui travaillent sur le terrain, qui œuvrent déjà à l'abolition du système pénal, quoi.
En t'écoutant, j'ai pas lu le bouquin, mais en t'écoutant, j'entends, tu me diras si tu penses que je dis des conneries, que je surinterprète, qu'il y a effectivement quand même des ennemis, que tout n'est pas possible, même par la justice transformatrice, qu'on peut buter sur des impossibles, même sur le plan structurel, sociétal, globalement. Et j'ai entendu, et c'est ça qui me semble super, de dire que ce qui est important, c'est comment on constitue ou on reconstitue du collectif et justement, comment on fait pour pas systématiquement se tromper d'ennemis et faire de la lutte de classe de proximité entre nous, à défaut de mettre à bas ce qui nous domine et ce qui nous opprime. Et donc, comment on gère ce qui, chez nous, relève justement de l'ennemi. Ce qui nous a été imposé... en termes de rapport de domination, et comment on arrive à le gérer ou pas. Parce qu'effectivement, même chez nous, il peut y avoir des choses qui resteront du camp de l'ennemi. Il ne faut pas non plus faire d'angélisme. Dans nos collectifs, ça peut arriver, ça peut exister. Mais en même temps, il y a tellement de fois où on se trompe et on se divise et on ne réussit pas à maintenir du collectif. Et c'est cette question que tu as abordée des valeurs communes qui est vachement, je trouve, à la fois vachement belle, mais vachement, effectivement, difficile à mettre en œuvre à travers ce qui nous domine, ce qui nous traverse comme oppression.
Ouais, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est que tout est une question d'échelle, en fait. Et enfin, pour moi, je parle à un moment dans le livre d'une limite que les milieux militants font entre le « eux », les ennemis politiques, et le « nous ». Et là, tu parles beaucoup du « nous », mais en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas d'accord sur... Enfin, c'est pas toi et moi, mais généralement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui est le « nous » et qui est le « eux ». Et en fait, t'as des gens dans les milieux militants queer qui vont être entre nous. Et en fait, le nous, c'est les personnes qui vont partager les 5 oppressions desquelles ils sont victimes, quoi. Et puis, tu peux aller étendre ça, étendre ça, étendre ça. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur comment on fait converger les luttes, etc. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je pense que je viens juste là, typiquement dans la critique de... En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que pour se constituer en tant que groupe, on a besoin aussi de tracer une limite entre nos ennemis et nos amis. Et de fait, là, cette limite, elle n'est pas claire pour tout le monde. Il faut comprendre pourquoi on a besoin de tenir ces postures-là qui peuvent être extrêmes à des endroits et que ces postures-là, elles sont compréhensibles, elles peuvent se comprendre parce que plein de facteurs différents, parce qu'on n'a pas été entendu pendant longtemps, parce que tout ça, etc. Et qu'il faut d'abord passer par cette compréhension avant de passer vers « non, mais c'est bon, on peut aller plus loin, on peut créer des ponts, etc. » Et je pense que c'est d'abord dans un mouvement d'empathie, quoi. On comprend d'où ces gens-là, d'où moi aussi, d'où ces gens-là se parlent et critiquent, portent leurs critiques, avant de pouvoir créer des fronts communs, quoi. Donc voilà, c'est vraiment sortir juste d'une posture critique de « ah, ils n'ont pas compris ». C'est juste, en fait, si, ils ont compris certaines choses, et puis nous, on a compris d'autres choses, et il faut vraiment qu'on arrive à se parler, voilà. Mais bon, une fois qu'on a dit ça...
Merci déjà pour tout ce que tu as partagé depuis le début. Moi, la question que je me pose en ce moment, mais enfin depuis quelques années déjà, c'est la distinction entre ce qui relève de la posture et ce qui relève des outils. Et je me rends compte du coup qu'on est beaucoup à essayer de construire nos propres outils dans son coin, et qu'en fait, il y a un peu ce truc de qu'est-ce qui existe pour pouvoir avoir ce partage de trouver de nouveaux outils, en partager ceux qu'on fabrique soi-même dans ses propres espaces militants.
Bah, je pense qu'effectivement, c'est important de faire un travail de formalisation et de transmission de tout ce qu'on fait là. Après, la justice transformatrice, c'est vraiment quelque chose qui est très récent, quoi. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas 1000 choses encore. Enfin, voilà, la première itération du terme, c'était en 90. Bon, bah, enfin, voilà, c'est très, très récent, quoi. Et de fait, bah, le livre, c'était une manière aussi de centraliser toutes les références que j'avais trouvées jusqu'ici, quoi. Donc, à part, c'est vraiment des trajectoires personnelles. Je n'ai pas de réponse plus générale, mais c'est vraiment rentrer en lien les uns avec les autres et travailler. Typiquement, sur notre site, il y a des listes de références. Dans le livre, il y a des listes de références. Plus il y aura de listes de références, plus on saura ce qui se passe et ce qui se fait déjà. Donc, je peux que t'inviter à avoir un site et une liste de références. Voilà.
Moi, du coup, j'avais une question sur un angle mort, du coup, que j'avais relevé. Du coup, c'était comment gérer les accusations à tort qui visent à nuire notamment des personnes trans, notamment des femmes trans, dans les collectifs féministes.
Déjà, en développant le discours, mais en fait, le problème aussi, c'est qu'on manque, je pense qu'un des problèmes pour moi, mais bon, ça répond pas totalement à la question, mais c'est qu'on manque aussi de chiffres et de stats sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire que les personnes trans, notamment les femmes trans, sont beaucoup plus touchées par les call-out, parce qu'il y a tout un tas de stéréotypes transmisogynes qui les sous-tendent. Et pour moi, déjà, le fait de pouvoir le dire et de pouvoir créer du contenu là-dessus, ça va être une des manières de lutter. Mais ça, c'est sur le long terme. Et sur le court terme, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, nous, il y a pas mal de personnes qui nous contactent et qui sont, d'après elles, victimes de fausses accusations. Déjà, on va mettre en place pas mal de choses avant d'aller... Enfin, même si on part du principe que la personne est de bonne foi, on va quand même lui proposer d'établir un espace, par exemple, de parole avec les personnes qui l'accusent pour qu'elle puisse avoir un échange direct et aussi qu'on sorte du public. Parce que le problème aussi dans ces situations-là, c'est que tout devient très public très rapidement et qu'il y a un grossissement de la parole qui s'opère. Et du coup, on va essayer de crever ça en proposant des espaces d'échange. Si ça, par exemple, c'est refusé, nous, ça nous donne un levier pour agir avec la personne directement et dire, si la personne a refusé de t'écouter et d'entendre aussi que vous entre-écoutez, et voilà, si elle a refusé ça, nous, on va pouvoir t'accompagner et accompagner les personnes dans un processus qui les concerneront juste elles. Et notamment l'écriture de textes. Pour le coup, là, ça rejoint la question de la transmission. Mais comment on fait pour créer de plus en plus d'écrits aussi sur cette question-là? Ça passe aussi par le fait que tu puisses retrouver une parole en écrivant ta version des faits et en la publiant si nécessaire et si tu en as envie, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, nous, c'est une des manières qu'on a trouvé de faire ça. Et il y a le fait aussi de mettre en contact les personnes qui sont victimes de ces choses-là en créant des groupes de soutien et des cercles de parole autour de ces questions-là. Et il y en a qui se créent. Enfin, il y en a qui se créent. Et nous, on essaye de centraliser au mieux les initiatives en la matière. Mais en tout cas, c'est des questions qui commencent à apparaître. Enfin, qui commencent à apparaître. Ça fait quand même un moment maintenant qu'elles sont apparues. Mais en tout cas, qui commencent à être parlées, quoi. Et voilà.
J'avais une question par rapport à ce que tu avais dit au début de ton intervention. Tu expliquais qu'il y a 4 ans, le collectif recevait plus de critiques qu'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu analyses cette évolution et quels sont les aspects positifs?
Alors, du coup, comment j'explique cette évolution et quels sont les aspects positifs de cette évolution, c'est ça? Alors, j'ai deux, j'ai pas trop réfléchi encore, mais j'avoue que cette tournée m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est vrai que c'est bizarre d'avoir autant de consensus. Enfin, là, vous l'avez vu dans les questions, il y a personne qui s'est levé en me disant des trucs horribles, quoi. Et c'est étonnant. Enfin, franchement, c'est étonnant dans le sens où c'est pas possible qu'on soit tous d'accord sur ces sujets. Alors, soit c'est extrêmement consensuel ce que je suis en train de dire, soit je le dis d'une manière qui vous fait pitié, et dans ce cas, vous avez pas envie de mal paguer et de me dire des trucs horribles. Soit le fait que j'ai écrit un livre, ça me donne quand même une position qui fait que je me cache derrière une boîte d'édition, donc ça rend plus compliqué le fait de me critiquer publiquement. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que c'est très étonnant pour moi de voir que ça fait quand même consensus ce que je suis en train de dire, alors même que c'est des questions qui sont tellement complexes et qui touchent à des choses tellement intimes, et politiques aussi, mais intimes, que c'est pas possible qu'on soit tous et toutes d'accord. Donc c'est vrai que ça me questionne pas mal. Et du coup, je sais pas si je dirais que c'est positif. Enfin, oui, évidemment, c'est positif qu'il y a plein de gens là qui discutent de ces questions et qui, du coup, au moins mettent en débat tout ça. Je pense qu'on... Je sais pas, en fait, c'est à vous de répondre, en fait, plus qu'à moi, mais pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est parce qu'on est, on a fait un peu le constat collectif qu'on a essayé le call-out, on a essayé l'exclusion, etc., et que finalement, ça marche quand même bof? Est-ce qu'on est là pour ça? Ou est-ce qu'on est là parce qu'en fait... on est là pour faire une critique. En fait, il y aurait 1000 raisons pour lesquelles les gens sont aussi présents. Et moi, je ne vous ai pas parlé à tous individuellement, donc je ne saurais pas trop. Moi, ce que je ne voudrais pas, en tout cas, c'est créer une sorte de nouvelle mode autour de la justice transformatrice et de, maintenant, c'est la bonne manière de faire. On est passé de tout exclure à plus rien exclure et maintenant, il faut inclure absolument. Enfin, en fait, je ne voudrais surtout pas créer ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que c'est en train d'être créé et c'est dommage parce que moi, ce que je voudrais... c'est que vous soyez très critique par rapport à ce que je vous enseigne, que vous soyez très critique par rapport à ce livre qui est peut-être trop consensuel ou peut-être trop introductif pour que vous puissiez vous en emparer. mais en tout cas que vous alliez voir les différentes références, etc., pour vous faire vos propres idées et que vous soyez pas d'accord avec moi, quoi. Et que, parce que de toute façon, voilà, si on n'est pas d'accord, il y a d'autres textes qui vont sortir, et je sais qu'il y a déjà des textes de critiques qui sont sortis de ce que j'ai écrit, donc c'est très bien, parce que faut qu'on crée du discours là-dessus, faut qu'on fasse évoluer les choses. Là où aujourd'hui, jusqu'ici, j'avais l'impression que c'était plutôt un consensus figé de les violeurs, il faut les brûler, et puis il faut faire ça. Et là, c'est un peu en train de bouger, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça, c'est positif. On s'arrête ? Merci. Ici, j'avais l'impression...